doit être amplifié.
Alors j'ai deux extraits, mais je peux faire sans. Hein. C'est comme.
C'est
quoi
diffusé
sur le. En fait, j'ai une présentation PowerPoint. Oh, et en bonus, j'ai deux extraits de films, mais bon, si on ne les regarde pas, enfin, je peux faire ça.
Alors, il faut faire ce qu'il y a. Ok.
On ne ferait pas l'écouter des... Non. J'avais dit ça, elle disait bon, bon, rien.
On fait
nos deux. Non, je peux mettre la présentation là.
Il y a la présentation aussi.
Ah, d'accord. C'est comme vous voulez remettre la présentation là-bas.
Bah, en fait, c'est pour pouvoir la passer, c'est peut-être plus simple.
Ouais. Oui, ok.
Et pour les extraits, je pourrais te demander. Okay. C'est sur YouTube en fait.
Ok.
Sinon, c'est pas grave.
Si, si.
Le peuple réclame.
Non, j'avais pas prévu d'en faire.
Je vais utiliser
le micro. Oui, bien sûr.
Comme Digipost.
Alors, c'est. Attention, j'avais vu. Ah, voilà. Alors, je fais juste un petit spoiler alert, parce que la nature du sujet qu'on va traiter m'amène à parler de la fin de certains films. C'était assez incontournable dans l'analyse. Je suis désolé d'avance. Et j'ai choisi des films que normalement vous êtes censé avoir vus si vous vous intéressez au cinéma. Parfait, merci beaucoup. Donc ma problématique en fait elle est exactement la même que celle des précédentes interventions, en particulier sur la peinture et la littérature. C'est comment les trois concepts bibliques de création, de chute et de rédemption et le lien entre ces trois concepts vont être présents dans des films qui ne sont pas du tout des films chrétiens. Qu'est-ce que ces films nous disent sur le rapport entre notre culture contemporaine et spirituelle? Parce que le cinéma est l'art en fait qui est le plus jeune aujourd'hui. Donc c'est un art qui est très ancré, qui a même contribué à façonner notre culture contemporaine. Et enfin, quel lien on peut trouver entre ces films, donc qui sont encore une fois pas du tout chrétiens, et notre foi, dans un plan en guise d'outil apologétique, en fait. Tout le sens. Alors, on va ensemble naviguer dans les océans du blockbuster, dans les cascades du film d'auteur, dans les archipels du film fantastique. Et nous allons essayer d'éviter un écueil, c'est pour ça que je parlais d'un point méthodologique, qui était pas facile à éviter, en fait, c'est le fait de vouloir trouver ce qu'on cherche, c'est-à-dire les éléments création, chute et rédemption, là où ils ne sont pas forcément, avec le risque en fait, de tirer un peu par les cheveux des films pour y trouver déjà ce qu'on cherche. Et en fait, cet écueil, je vais essayer de l'éviter en prenant justement des films que je connais a priori bien, que j'ai vu une, deux, trois fois. Donc c'est pour ça qu'en fait le corpus de films qu'on va regarder, enfin qu'on va étudier, il y aura des lacunes qui correspondront à mes propres lacunes de cinéphile. Donc peut-être que je vais passer à côté de films pour vous qui vous paraissent aussi évidents, mais c'est une manière à essayer de un peu d'honnêteté intellectuelle pour pas écarter le film de là où le film veut aller. Et la deuxième chose, c'est la notion évidemment d'auteur du film. Voilà, Hitchcock sera très mécontent par exemple si j'analyse ses films d'une certaine manière au lieu de la manière dont lui-même les conçoit. C'est-à-dire qu'un film, en fait, il y a plusieurs degrés d'analyse, parce qu'effectivement il y a l'histoire, mais il y a aussi la mise en scène qui est fondamentale. Il faut aussi analyser la musique. C'est un objet en fait multifacette. Donc on est un peu comme un paléontologue devant comme ça plusieurs strates. Et on va pas, du coup il faut connaître l'auteur, parce qu'on va pas analyser un film de Hitchcock ou de Terrence Malick. Des films où la mise en scène est fondamentale, où la mise en image, où la caméra a un rôle prédominant, avec par exemple un film de Woody Allen, où l'histoire va être beaucoup plus racontée par les dialogues et la mise en scène des comédiens. Voilà, c'était un peu les deux notes méthodologiques de la présentation. Non, pour rater. Voilà, et pour illustrer ce que je dis, en fait, je sais pas, est-ce que vous savez d'où est extrait cette image? Extrait de cette image, pardon.
Silence.
Non, mais je vais en parler.
1492.
Oui, c'est ça. En fait, c'est un film de 1492. En fait, le titre original, donc c'est un film sur Christophe Colomb avec Gérard Depardieu. 1492. Mais il est sorti en 92.
Oui, voilà,
pour les 500 ans de Christophe Colomb. Mais en fait, le titre original de 1492, c'est Conquest of Paradise. Conquête du paradis. Et bah, c'est là qu'on peut regarder un petit extrait. Si tu tapes dans YouTube 1492, scène de la découverte. Donc déjà, Conquest of Paradise, tout de suite le titre évoque quelque chose. Bah, qu'est-ce que c'est que ce paradis? Si on l'a conquis, c'est est-ce qu'on l'a perdu? Est-ce que c'est quelque chose que, bah, de quoi parle le film en fait? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas appelé Christophe Colomb en fait? C'est la traduction française.
Tu peux
ça. Ouais, c'est juste pour vous donner un exemple de comment on peut analyser un film.
C'est
parfait, vas-y. Ah ouais. On va voir rien en entier. Qu'est-ce qu'on Continue. C'est un peu long sinon. Je vais juste regarder la fin. Ouais, tu peux regarder la fin. Voilà. L'image qui m'intéressait. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a vu? C'est un film qui s'appelle Conquest of Paradise. Et bah, du coup, tu vas pouvoir rebrancher la projection. Merci beaucoup. Et qui présente donc la scène, en fait, donc c'est la scène la plus importante du film, hein, de découverte du Nouveau Monde. En fait, il le présente vraiment comme un paradis qui ressemble au Jardin d'Éden. Parce qu'on voit une nature absolument vierge de tout être humain, pour l'instant, qui n'a pas encore rencontré les habitants qui y vivent, avec une musique qui évoque la musique sacrée. Alors, on retrouve un peu le côté grégorien qu'on a évoqué tout à l'heure avec Jean-Claude, et une image magnifique, et enfin cette scène où il tombe à genoux, dans une espèce d'attitude de recueillement, on sait vers quel dieu, mais comme voilà, l'image d'un Éden retrouvé. Donc c'était pour illustrer voilà, ce qu'on peut voir en fait. Est-ce que c'est moi qui vais projeter en tant que croyant des éléments qui ne sont pas dans le film? Ou est-ce que c'est effectivement un message inconscient qui est véhiculé par le film? C'est une question ouverte, mais c'est un peu comme ça en fait qu'on va travailler. Parce que forcément, quand on regarde des films, on l'a vu dans Pour les autres arts aussi, le spectateur a son importance, il va aussi analyser les films selon ce qu'il connaît. Et il peut y avoir aussi dans les films des choses que les auteurs eux-mêmes ne voulaient pas forcément mettre, mais vont traduire de l'inconscient collectif. Je sais pas.
C'est ça.
Tu vois quelque chose? Voilà. Tu fais ça, toi?
F4.
Alors, je vois. J'ai oublié, c'est là, d'accord. Ah, d'accord. Là, je saurai alors, merci. Ok, merci beaucoup.
Tu vois.
Et je voulais juste faire aussi un petit point sur pourquoi est-ce que c'est un... Enfin, moi, je mise vraiment pour l'étude du cinéma, aussi bien en tant que, que croyant, en tant individuel, mais aussi collectif, en tant qu'église. Et voilà, je voulais insister sur l'importance du cinéma, donc comme j'ai dit, qui a contribué à façonner notre culture contemporaine, et notamment du cinéma hollywoodien. En vous rappelant en fait un peu comment le cinéma hollywoodien est né. En fait, il est issu d'une volonté manifeste des États-Unis d'exporter leur culture. Donc pas seulement leur culture au sens cinématographique, mais une volonté d'exporter leur mode de vie et de se servir du cinéma pour toucher le plus large public possible. Je vous cite par exemple les accords Bloom-Burns. C'est en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont accordé un prêt de 300 millions de dollars en échange, donc à la France, pour se reconstruire, en échange de plusieurs facilités, dont la fin des quotas de films américains dans les salles de cinéma. Et donc c'est depuis en fait cette date-là que le cinéma américain a dominé tous les autres cinémas. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est important en fait de le comprendre, de l'étudier, d'avoir un discours, parce qu'en fait il a contribué à façonner cette culture de consommation de masse. Et ça continue de nos jours, hein, cinéma hollywoodien, avec Disney, avec sa politique de rachat massive en fait, de tous ses concurrents, et même de l'investissement en fait, de toutes les formes d'art. C'est-à-dire que le cinéma va absorber la littérature, la musique, le théâtre, le spectacle, et de plus en plus, en fait, les auteurs de ces arts-là vont être déterminés par la possibilité d'une adaptation de leur œuvre au cinéma, seule capable de leur faire toucher un plus large public. En fait. Et j'avais mentionné aussi l'importance de comprendre le cinéma en tant qu'individu, parce que c'est aussi devenu un facteur relationnel fondamental en fait dans notre rapport aux autres. Et je vais citer pour ça un article de Emmanuel Etis qui s'appelle « De Krakauer à Dark Vador, prise de vue sur le cinéma et les sciences sociales », qui dit ceci. Le cinéma apparaît comme un moyen apparemment très simple et très efficace pour s'entrévaluer sur des plans qui touchent autant à nos goûts et à nos critères de jugement qu'à notre capital culturel et à la façon dont on l'a construit. Voilà, je ne m'étends pas plus sur cette question-là, mais je voulais insister sur l'importance de notre positionnement par rapport au cinéma dans la société actuelle. La base d'un film, on a tendance à l'oublier, mais c'est le scénario. C'est sur cet objet-là que en fait, le film va pouvoir être financé, va pouvoir convaincre des comédiens qui vont regarder quelle place ils peuvent avoir dans le film, si c'est une place qui leur convient. Sauf qu'on est Depardieu, on a moins besoin de ça, quoique. Du coup, je voulais faire un petit point sur ce que c'est que le scénario et comment on va retrouver donc, ce qu'on a appelé ce matin le triptyque ou le schéma biblique, déjà même dans les règles du scénario. Alors, simplement rappeler que le schéma création, chute, rédemption, pour moi, c'est qu'une des lectures possibles du récit biblique. Et en fait, c'est une lecture qui est orientée sur l'homme. C'est-à-dire qu'on pourrait tout aussi bien structurer le récit biblique, c'est-à-dire dans ces 66 livres, sur, par exemple, les alliances. Première alliance, deuxième alliance, nouvelle alliance, etc. Et là, du coup, on parle bien de la création de l'homme, de la chute de l'homme, et de la rédemption de l'homme. Donc vraiment, c'est un choix de récit qui est axé sur le parcours de l'homme. Alors par contre, il est axé sur l'homme, mais on peut voir que dans les trois étapes, l'homme est plutôt l'objet que l'acteur. C'est-à-dire qu'il n'est pas... L'homme ne se crée pas lui-même, il est l'objet de la création. Il a effectivement la responsabilité dans la chute, il a aussi le rôle du diable, en fait, qui va l'entraîner en tentation. Et la rédemption, il est également l'objet, puisque c'est Jésus qui va opérer, en fait, cette rédemption. Donc voilà, c'est important, d'avoir ça en tête, si on veut comparer, en fait, avec comment l'homme réagit, en fait, dans les films dont on va parler. Et surtout, voilà, c'est si on retrouve bien du coup la figure de l'homme dans le cinéma, les films chrétiens ne mettent pas en scène la figure de Dieu. Du coup, la question c'est, qu'est-ce qu'ils mettent à la place de Dieu ? Est-ce que c'est la société ? Donc là, vous avez reconnu.
Moderne.
Est-ce que c'est l'image mystique ? Je savais que vous retrouvez facilement. Voilà, est-ce que c'est une forme mystique qui va remplacer le rôle de Dieu ? Est-ce que c'est... Très bien. Est-ce que c'est l'idéal amoureux ? Le couple ? Ouais, j'ai fait exprès de prendre une image assez idéaliste. Ou est-ce que c'est l'homme lui-même ? Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Oui, voilà, intelligence artificielle. Est-ce que c'est l'homme lui-même qui se crée, en fait ? Donc, qu'est-ce qui remplace Dieu dans la dramaturgie de la création, de la chute et de la rédemption ? Et dernier point sur le schéma biblique, c'était de dire que même dans la Bible, on remarque quand même, on l'a un peu évoqué ce matin, que les poids respectifs de chaque partie, c'est très inégalement réparti. C'est-à-dire que la création et la chute, finalement, c'est 3 chapitres de la Bible, 3 ou 4 chapitres. Et donc tout le reste de la Bible, les 66 livres, ça va être la rédemption. Mais finalement, la rédemption, comme on l'a aussi souligné ce matin, elle n'est pas entièrement opérée. C'est le rachat est opéré. Mais la fin de la Bible, c'est ce qu'on appelle un prolepse, c'est un flash forward en fait de ce qui va se passer. Donc finalement, les 95% de la Bible, c'est ce qu'il y a entre le deuxième et troisième acte, entre la chute et la rédemption. Donc c'est le parcours de l'homme. Alors je vais vous parler plus précisément. À ce que je disais sur le scénario. Je ne vais pas parler de ce film, hein, c'est juste pour illustrer. Il n'y a pas beaucoup d'images de scénaristes au travail. Vous connaissez ?
Non, mais j'adore ce film. C'est populaire.
C'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, pour l'instant, tout va bien. Ouais, donc, comme j'ai dit, le scénario, c'est la base du film. Et le scénario lui-même obéit en fait à des règles dramaturgiques qui sont issues du théâtre. C'est-à-dire que si je vous lis un extrait de la Poétique d'Aristote, donc là on est vraiment au temps du théâtre grec, je vais vous dire quelque chose qui est toujours valable en fait dans les œuvres contemporaines, c'est-à-dire qui est encore étudié dans les cours de scénario qu'on peut trouver. Alors chapitre 6, définition de la tragédie, détermination des parties dont elle se compose. Il y a dans toute tragédie le prologue, le nœud et le dénouement. Les faits pris en dehors de la fable, et souvent aussi quelques-uns de ceux qui s'y accomplissent, voilà le nœud, tout le reste constitue le dénouement. J'appelle nœud ce qui a lieu depuis le commencement, jusqu'à la fin de la partie de laquelle il résulte que l'on passe du malheur au bonheur, ou du bonheur au malheur. Et dénouement, ce qui part du commencement de ce passage jusqu'à la fin de la pièce. Donc déjà, moi ça me rappelle en fait le schéma biblique de création de chute et de rédemption. C'est-à-dire que la dramaturgie qui va être au cœur de toute notre manière de raconter des histoires va être celle d'un passage du bonheur au malheur, donc qui est constitué par le nœud. C'est-à-dire qu'on a une situation de départ, on a quelque chose qui est perdu, ou un besoin au cœur de l'homme, et le besoin de retrouver ou d'avancer. Alors après ça va se décliner de différentes manières, mais c'est déjà ce qu'Aristote identifie comme les 3 moments fondamentaux de tout récit. Alors bien sûr, voilà, les formes d'écriture les plus modernes, elles vont vraiment s'éloigner de ce schéma-là. Mais je vais rester du coup sur des films qui ont été le plus grand public, qui ont touché le plus large public possible. C'est-à-dire que je vais prendre en fait les 5 films du box-office mondial qui ont eu le plus de retentissement, qui ont plus marqué la culture. Donc pour l'instant, c'est Avatar effectivement qui a fait le plus nombre d'entrées. Et de quoi parle Avatar, si vous en rappelez ? C'est l'histoire d'une planète un peu paradisiaque que l'homme, en fait, sur laquelle l'homme débarque pour exploiter ses ressources. Et un des militaires en fait de l'armée se connecte avec un des extraterrestres habitant cette planète pour empêcher ce qui va se passer. Où est le schéma biblique là-dedans ? En fait, on a quand même une planète qui est présentée comme un paradis, puisque tout le monde y vit en harmonie, tous les extraterrestres vivent à tous les niveaux en harmonie les uns avec les autres. Enfin, le mal n'existe pas sur cette planète. Le mal est apporté par l'homme. Et qu'est-ce qui pousse l'homme, en fait, à faire le mal ? C'est l'envie. C'est exploiter les ressources de la planète. Et là, on entre, à la fois on continue, mais on s'écarte du schéma biblique. C'est que, donc là, on a bien la création et la chute, hein, la création de cette planète un peu idéalisée, la chute, c'est l'arrivée de l'homme, et la rédemption. C'est assez intéressant parce que la rédemption, elle va passer, donc, d'où le titre Avatar. C'est qu'Avatar, dans la religion hindoue, c'est les dieux qui s'incarnent, en fait, dans un homme. Et donc là, c'est un des hommes, du coup, un des militaires qui va s'incarner au moyen de la technologie dans le corps d'un extraterrestre et ainsi comprendre comment il fonctionne et se retourner contre les hommes. Donc finalement, est-ce qu'il y a de la rédemption ? Ben non, en fait, ce qui en résulte, c'est le jugement, c'est la destruction. La guerre, en fait, et la destruction de l'homme va être le seul moyen de ramener la paix sur la planète. Alors, apparemment, il y a des suites qui sont en préparation, ça fait des années qu'on les attend. Donc, peut-être que, je ne sais pas ce que James Cameron va faire dans les suites, mais en tout cas, si je prends juste Avatar 1, ben la sortie qu'il propose est la destruction de l'homme. Mais bon, moi je vois quand même dans ce film-là, et dans d'autres films qu'on va voir ensemble, un inconscient collectif qui est marqué par cette idée d'origine bonne, et souvent représentée sous la forme de la nature. Avec l'idée qu'on est coupé, enfin que le mal rentre dans cette création, c'est-à-dire dans cette situation initiale de film, et le combat pour la retourner. Et bizarrement, la plupart du temps, c'est par la destruction, et non, c'est-à-dire qu'on, c'est quand même marrant, parce qu'on reproche souvent aux chrétiens, ou à la Bible, de parler de la violence, le jugement dernier, l'enfer, des choses comme ça, et pourtant, lorsque l'homme livré à lui-même, réfléchit à des solutions pour rétablir l'équilibre rompu, là, c'est rarement pacifique. Alors, est-ce que du coup vous avez imaginé l'autre grand succès C'est du même réalisateur. Exactement. Ah, je n'ai pas du tout pris cette image pour la figure, enfin, la pose christique. Hein. Alors, en fait, Titanic, de quoi ça parle ? Donc là, on n'est pas dans un film fantastique, on est sur l'histoire d'un couple, donc non pas Adam et Ève, mais Jack et Rose, en fait, qui vivent une idylle, une histoire d'amour totalement idéalisée, dépassant, peut-être que j'exagère, je ne sais pas, mais bon, c'est un peu l'idéal de l'histoire d'amour, en fait. Tout va bien entre eux, comme par hasard, le soleil brille toujours de la bonne manière, les éclaircissent de la bonne manière au moment idoine, n'est-ce pas ? Donc voilà, on a une forme, en fait, donc même si on n'a pas une création en tant que telle, on a une situation idéalisée, encore une fois. Et là, cette fois, ce n'est pas le couple en lui-même qui est responsable de la chute, c'est en fait le contexte, c'est-à-dire ce bateau qui va heurter un iceberg, et comme c'est à plusieurs moments souligné dans le film, c'est l'orgueil de l'homme qui a construit en fait un navire trop lourd avec trop de gens dedans, qui va provoquer la perte de ce couple. Mais en fait, le couple subit cette chute symboliquement, de la même manière que nous-mêmes, nous sommes finalement, on n'a pas été dans Éden, mais on subit en fait la conséquence du péché. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'encore une fois, où est la culpabilité, où est la rédemption ? Mais la culpabilité, c'est pas l'iceberg qui a foncé sur le bateau. Hein. Donc c'est pas la nature qui est coupable. Encore une fois, c'est l'homme. Et de rédemption, alors vous allez dire, bon, je spoil pas, hein, c'est pour dire que Jack meurt à la fin. Mais ça serait oublier un détail très important, c'est que le Cameron fait le choix. Cameron fait le choix d'encadrer l'histoire du couple, d'un prologue et d'un épilogue, où l'on voit en fait la descendance de Rose faire la paix avec cette histoire et de redonner le bijou, le cœur de l'océan, dans l'océan. Et là, on retrouve exactement cette idée que la rédemption, elle passe en fait par le fait de faire la paix avec la création. C'est-à-dire cette nature dans laquelle a sombré l'histoire d'amour, finalement, il est possible de retrouver un équilibre avec, et donc le film se termine de manière pacifique. C'est-à-dire même si Jack ne ressuscite pas, quoi qu'il avait été question d'un Titanic 2, Jack en fait avait quand même survécu. C'est vrai, il y a un scénario qui a circulé là-dessus. Ensuite. Ah. Incontournable.
Alors là, complètement.
Quelle est la...
Complètement.
Voilà, forcément. Quelle est la situation de départ ? Alors déjà, ce qu'il faut dire sur Star Wars, hein, pour comprendre l'auteur, c'est que George Lucas, de lui-même, dans ses interviews, dit qu'il a cherché à créer un mythe moderne. Et il s'est inspiré en fait d'un livre qui s'appelle « Le héros aux mille visages » de Joseph Campbell, et qui développe la théorie du monomythe. donc qui n'est pas du tout une théorie chrétienne, mais qui est très intéressante à étudier pour les croyants, puisque dans cette théorie, il dit que tous les mythes de l'humanité sont issus d'un seul mythe fondamental, dont d'ailleurs le déluge. Il a remarqué qu'en fait, il y avait une histoire de déluge dans toutes les cultures, tous les mythes du monde, donc il en déduit qu'il y a quelque part, mais il ne l'a jamais trouvé, hein. Il n'a jamais trouvé ce monomythe, mais il en déduit qu'il y a une origine commune à tous nos mythes. Et Georges Lucas, en fait, ne fait que décliner, finalement, mais volontairement. C'est vraiment le but de sa démarche. De décliner ce mythe, mais en le mettant dans l'espace, c'est-à-dire avec un habillage qui soit plus conforme avec notre société contemporaine, avec des références au western, à la science-fiction, au film de samouraï, enfin, un peu brassé, mélanger un peu tous les genres actuels. Donc, nous avons dans Star Wars l'histoire d'un jeune fermier, encore une fois, le rapport à la Terre. On a beau être dans l'espace, hein, ça... On n'en sort pas. Un jeune fermier, en fait, donc, qui est assez innocent, qui perd sa famille, donc sa ferme est brûlée par l'Empire, et qui est embarqué dans une aventure galactique pour détruire l'Empire. Alors, je vais sauter différentes étapes, j'y reviendrai après. Je remarque simplement que Le Retour du Jedi, donc le troisième film de la trilogie, se termine sur une planète forestière avec des teams d'ours, au niveau l'idée de la réconciliation avec la nature. On a beau être dans l'espace avec tous les vaisseaux spatiaux, on n'en sort jamais. Et en fait, cette saga, alors ça pourrait être un film de science-fiction assez banal, mais ce qui la caractérise le plus, c'est le rapport entre, je vais encore spoiler, je suis désolé, le rapport entre Luke Skywalker et Dark Vador, c'est-à-dire entre le fils et le père. En fait, donc l'équilibre de la galaxie ne peut être restauré que si le fils et le père parviennent à renouer un contact qui a été rompu. Tout repose là-dessus, en fait. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il y a vraiment une rédemption? Effectivement, Dark Vador retourne du côté du bien, au final. Et en fait, il faut voir que George Lucas a ajouté une trilogie à sa trilogie. Et c'est très révélateur, parce que comment commence... l'épisode 1 donc de la nouvelle trilogie, elle commence sur une planète qui s'appelle Naboo, où, alors là je ne fais que citer le film, hein, hommes et extraterrestres vivent en symbiose. Et cette planète est menacée, donc c'est exactement comme dans Avatar, hein, par une armée de robots qui vient mettre le chaos en fait, sur cette planète. Et c'est on va rencontrer du coup Anakin Skywalker, c'est-à-dire Dark Vador jeune, sous la forme d'un enfant innocent qui est enfanté sans père. C'est pas très bien, c'est pas expliqué dans le film, hein, c'est juste la mère qui dit n'a pas de père. D'accord. Et qui dont le rôle devrait être de restaurer l'équilibre dans la force et dans la galaxie. Malheureusement, donc Anakin va chuter dans le mal, et c'est son fils, donc encore une fois sa descendance, qui va le sauver. Donc voilà, ce qui est intéressant en fait de voir, c'est de voir les. Il y a toujours trois actes, hein, création, chute, rédemption, ça c'est sûr. Après, c'est assez éloigné du schéma biblique, mais on voit en fait que ce sont les mêmes figures. C'est-à-dire qu'il y a une figure de sauveur, il y a une figure de pécheur, il y a une figure, alors il n'y a pas de figure divine en fait, c'est la force, mais la force elle n'a pas de plan de salut. C'est-à-dire qu'on reste quand même sur l'homme qui se sauve lui-même, l'homme sauve l'homme. Mais du coup, voilà, c'est pour vous encourager à voir un peu dans chaque film, à reconnaître les figures et à voir en quoi elles sont, comment elles sont employées, comment elles sont détournées. C'est-à-dire qu'Anakin, en fait, il est à la fois Adam et Jésus. Puisqu'il est à la fois Adam, c'est-à-dire l'homme qui est tombé dans le péché, sous l'influence de l'empereur. On pourra peut-être. Bon, on regardera cet extrait tout à l'heure. Et d'ailleurs, c'est très marrant. Et il est à la fois Jésus, puisqu'il a été enfanté sans père, qui est le Messie attendu. Ensuite, alors là, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, pardon, du coup, voilà. Ouais. Alors. Bien, très bien. Voilà, autre grand succès du cinéma. Alors là, vous allez me dire, mais oui, j'ai essayé de prendre des films de genre très différents les uns des autres. Hein. Oui, la chute, oui, la rédemption. Alors, de quoi parle ce film? Ce film parle d'une famille qui souffre du décès de la mère, et dont le père, donc le capitaine Von Trapp, c'est totalement isolé, c'est coupé du monde, et où les liens d'amour, en fait, entre les enfants et le père, et entre les enfants entre eux, le lien d'amour a été rompu. Et voilà que débarque donc Julie Andrews, je vous avez vu son nom dans le film.
Marc,
merci. qui vient en fait réapprendre, réenchanter au travers de la musique. On revient à ce qui a été dit par Jean-Claude aussi, hein, vraiment ce côté la musique qui permet d'exprimer des choses que les mots ne peuvent pas finalement. Et donc par la musique, renouer les liens d'amour entre eux, donc ce qui va être aidé par le fait qu'elle va épouser, donc elle va remplacer en fait la mère disparue. Donc on a bien l'idée de rédemption, dans la mesure où en fait le père renoue le contact avec sa famille. Et alors ce qui est intéressant dans ce film, dans le scénario, c'est qu'on a les trois, donc le triptyque, il va être dans le dernier acte, création, chute, rédemption. C'est-à-dire que dans le dernier acte du film, l'auteur rajoute quelque chose, c'est en fait l'invasion par les nazis du pays, de l'Autriche. Donc finalement, on avait abouti en cours de film à une situation un peu idéale, la famille reconstituée, le succès grâce aux chansons, toujours la nature magnifiée, le cadre naturel qui est très réconfortant. On a donc la chute à travers l'irruption des nazis, donc ils sont coupés de ce cadre, et la nécessaire fuite pour se reconstruire. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on bascule du film à l'histoire réelle. C'est que dans la réalité, la famille von Trapp a fui son pays aux États-Unis et a pu se reconstruire et trouver un succès international à travers en fait ce nouveau monde, donc sont les États-Unis. Donc là, on dépasse complètement l'histoire du film. Je vous donne un dernier exemple. Alors, tout le monde connaît, j'espère. Donc la saga Toy Story. Encore une fois, qu'est-ce que ça raconte ? Donc dans le premier film, on a Woody qui est un jouet qui a une vie en fait idéale. Il est le jouet le plus aimé de l'enfant Andy. Tous les autres jouets lui obéissent, il est un peu leader, il est très aimé, il est entouré. Et voilà que débarque un autre jouet, Buzz l'éclair, et par jalousie contre ce jouet, par peur de perdre sa place de jouet préféré de l'enfant, Woody se coupe de la chambre d'Andy, qui était cet endroit idéal. Et donc toute l'histoire du film va être de comment retourner dans cette chambre paradisiaque, édénique, comment reconstituer le lien avec l'enfant, puisque c'est le lien avec l'enfant qui donne en fait la vie à ses jouets. Donc ça s'est développé en fait dans le 2, dans le 3, jusque dans le 4. Il y a toujours, la création provient de l'amour qu'un enfant peut avoir pour son jouet. Et oui, Toy Story, voilà, pour moi c'est celui où finalement on retrouve le schéma biblique de la manière la plus complète, puisqu'on a vraiment l'état de départ parfait. On a la chute à cause de l'orgueil de Woody, on a l'exil de la chambre, du jardin, on a l'état post-lapsaire, c'est le personnage qui doit accepter de changer pour avoir le droit de retourner dans la chambre d'Andy, dans le jardin d'été. Voilà, donc en fait, je voulais un peu insister sur... J'ai fait quelle heure ?
16.
Ok. Voilà, je voulais insister sur quelque chose. À chaque fois, j'ai parlé de la création, de la nature. On a vu dans Avatar, dans Star Wars, que la nature est toujours considérée comme l'image de l'origine bonne en fait, de l'humanité. Et je voulais en fait souligner que la confusion qu'il peut y avoir entre l'état de nature et la création. Et... Est-ce que vous connaissez ?
Non.
Oh.
Alors, c'est la petite maison dans la prairie. En fait, le cinéma hollywoodien accorde une prédominance à la nature qui a beaucoup évolué. Donc, en fait, je vais un peu retracer cette évolution depuis les débuts dans les années 40-50 jusqu'à aujourd'hui. Et il y a vraiment un mélange entre la Genèse et tout ce qui a trait à la création au sens biblique du terme. Ouais, donc quand on commence dans le mythe que les Américains se sont inventés d'eux-mêmes, les Américains sont partis d'Europe qui était une société pervertie, et l'Amérique est vue comme un nouveau monde. C'est une chance en fait, donc pour les Indiens, on oublie, hein, c'est une chance en fait de repartir de zéro avec un idéal. De vie comme ça, recentrée sur la famille, loin de l'Europe qui est tombée dans la décadence. Et cette idée, ce mythe d'origine que les Américains sont eux-mêmes créés, est très perceptible dans les westerns, avec cette famille de colons qui est censée être plus conforme en fait à l'image biblique que les Américains se font de la Bible. Et je vous lis, alors c'est un ouvrage assez passionnant hein, de Caroline Merchant. Alors le titre c'est Réinventer Éden, le destin de la nature dans la culture occidentale. Alors je vais lire en anglais, je vais traduire après, c'est The Recovery of Eden Story is the mainstream narrative of Western culture. Donc la reconquête, la retrouver Éden, l'histoire du fait de retrouver Éden, c'est le motif narratif le plus mainstream, enfin le plus important dans la culture occidentale. It is perhaps the most important mythology humans have developed to make sense of their relationship to the earth. Donc c'est peut-être la mythologie la plus importante que les humains ont jamais développée pour donner du sens à leur relation avec la Terre. Voilà, je vous cite quelques titres de western. L'homme des plaines, la prisonnière du désert, l'homme des vallées perdues, la conquête de l'ouest. Toujours cette idée de retrouver la Terre, retrouver en fait une vie dans la nature. Et cette idéalisation, elle trouve son paroxysme avec le personnage de Tarzan, qui est vraiment cet homme innocent qui est retourné à l'état de nature, qui a renoué avec ses instincts de bonté, qui n'a aucun intérêt à retourner dans la civilisation. En fait, après, donc, on a les guerres mondiales, et on a toujours ce besoin de cette recherche de bonté naturelle dans le cinéma hollywoodien, qui vient en fait contrecarrer qui vient plutôt répondre à ce besoin de sens, à ce manque d'innocence que tout l'Occident a ressenti lors des guerres mondiales. Et on va remarquer là qu'en fait le cinéma européen, s'il s'engage dans une quête similaire, oui, bah, il y a le titre là. S'il s'engage dans une quête qui est assez similaire, retrouver une innocence, le chemin va pas du tout être le même et le constat va être différent. C'est-à-dire que le cinéma européen dans cette période-là va commencer à investir le genre du drame social et on va plutôt voir en fait l'innocence du côté de la figure du pauvre en opposition au riche, qui est plutôt montré comme le méchant. En fait, contrairement à l'Amérique, l'Europe à ce moment-là, le cinéma européen n'a plus d'idéal à proposer. Donc c'est comme si l'Éden ne pouvait être retrouvé. Donc là, voilà, la bête humaine, c'est vraiment le retour à la condition finalement animale de l'homme, là, comme on va en parler dans Giono. Je voulais quand même citer un film, je ne sais pas si vous connaissez. Ah. Alors, c'est un film de François Truffaut, L'Enfant Sauvage. Et ça, c'est un film que je trouve très intéressant, parce qu'il s'inscrit complètement dans le cinéma européen, avec quelque chose de très réaliste, hein, même en noir et blanc. Donc là, on n'est pas du tout dans l'idéalisation du cinéma américain. Donc c'est l'histoire en fait d'un orphelin qui vit dans la forêt, et qu'un médecin, qui est revenu à l'état sauvage, hein, on ne sait pas d'où il vient, et qu'un médecin va tenter de réhumaniser. Et en fait, le film, alors, sans vous spoiler, en fait, le film globalement fait le constat d'une étanchéité entre la nature et la civilisation, mais donne un espoir dans la mesure en fait où le médecin va réussir à créer un lien d'amour, un lien un peu paternel avec le petit garçon. Donc là, on a quand même, ce que je voulais dire en fait en opposant un peu les westerns, mais je vais un peu vite entre les westerns et ce type de film, c'est que même si voilà quand on appréhende le film comme ça, il y a assez peu de rapport avec le schéma biblique. Au final, si on étudie qu'est-ce qui se joue, les rapports entre les personnages. Moi, je peux y voir finalement quelque chose de très biblique avec cette nécessité de renouer le contact avec le Père qui permet la réhumanisation. Et je vous invite à réfléchir. En fait, pour terminer sur cette partie-là, là où ce que je vous invite à faire, en fait, c'est à réfléchir dans le film à pourquoi se bat le héros. C'est-à-dire, est-ce qu'il se bat pour retrouver quelque chose qu'il a perdu, pour retrouver un état de nature, hein, comme Woody, qu'il a perdu et dont il a été chassé? Ou est-ce qu'il cherche à évoluer vers une autre situation? Parce que finalement, dans la Bible, on a tendance. Enfin, le but, c'est pas de retrouver Éden. En fait, le but, c'est de trouver le royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, et quand on lit dans l'Apocalypse, effectivement, il y a des caractères d'Éden. Il y a l'arbre de vie, il y a différents caractères comme ça, mais ce n'est pas Éden. Donc finalement, on peut voir des films, encore une fois, c'est pas pour critiquer les westerns, mais cette idéalisation de l'état de nature, c'est là que je disais qu'il y avait un peu une confusion entre la nature au sens biologique du terme. Et l'idée de salut telle qu'elle est exprimée dans la Bible. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de revenir à l'Éden. Voilà, en fait, je continue sur la place de la nature dans le cinéma. Donc là, on arrive en fait dans les années 80 avec Mad Max. Enfin, ça, c'est le remake. Hein, mais, Mad Max, ça date des années 80. Et en fait, dans les années 80, on assiste à l'émergence de deux genres qui aura beaucoup de succès. C'est le film post-apocalyptique et le film catastrophe. Et... voilà. Donc effectivement, dans ces films, c'est l'homme face à la nature est devenue dangereuse, meurtrière. Mais encore une fois, est-ce que c'est la faute de la nature ? Non, il y a très clairement une culpabilité humaine très forte, parce que dans le cas du film post-apocalyptique, c'est l'homme qui a détruit la Terre, et donc qui tente ensuite d'y survivre, mais qui ne peut plus y vivre. Donc là, dans Mad Max, il y a eu un holocauste nucléaire. Ou dans le film Catastrophe, c'est pareil, c'est l'homme finalement qui se met dans des situations dans lesquelles il ne devrait pas être. Donc c'est souvent soit sur la mer, dans la montagne, dans l'espace, enfin que des environnements pour lesquels il n'est pas fait. Et ce qu'on remarque en fait, c'est que l'émergence de ces genres fait suite à la guerre du Vietnam. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la guerre du Vietnam ? Ben, c'est une guerre en fait que les Américains pensent avoir perdue, notamment parce qu'ils n'étaient pas adaptés à la jungle vietnamienne. Leur armée ne pouvait pas combattre dans ces conditions-là. Et c'est là qu'on voit du coup que l'image de la nature, elle va évoluer dans les films. Donc là, on abandonne, le western disparaît plus ou moins dans ces années-là, et on s'oriente en fait vers des films qui présentent la nature comme beaucoup plus dangereuse. Et on abandonne en fait l'idée de retrouver un Éden, et on est beaucoup plus centré sur la culpabilité de l'homme, et simplement sur la nécessité de la survie. Donc finalement, le cinéma américain va rejoindre à ce moment-là le cinéma européen, dans la mesure où la partie de la rédemption va être beaucoup moins développée, voire absente. On est vraiment sur une idée de survivre dans un monde qui n'est plus fait pour l'homme, ou pour lequel l'homme n'est plus fait. Et ça va aller juste. Voilà, parce que là, j'ai parlé du cinéma américain, mais c'est la même chose hein, dans d'autres cinémas. C'est si on regarde dans le cinéma japonais, on a la figure de Godzilla. Donc Godzilla, en fait, qui est un monstre qui est issu des essais nucléaires et qui vient pour, quelque part, rétablir les droits de la nature et châtier l'homme pour son orgueil. D'ailleurs, ça va faire le film Catastrophe, hein, où j'ai pas mis de photo, mais il y a Roland Emmerich, c'est un réalisateur qui s'amuse à détruire le monde dans chacun de ses films. Débarrance Day, 2012, le jour d'après, on a toujours finalement ce message comme quoi l'humanité est condamnée, en fait. Et l'humanité ne peut plus continuer. Alors, ça dépend des films. Dans Débarrance Day, mais j'en parlais tout à l'heure, ça sera plutôt qu'on va parler du héros. Et je finis pour sujet de la nature. Voilà. Avec Disney, en fait, on a encore une évolution. C'est-à-dire que cette fois, on retrouve. En fait, Disney arrive à faire la synthèse de tout ce que j'ai dit hein, sur l'évolution du western, le film catastrophe, tous les avatars un peu de la nature du cinéma américain. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est toujours de retrouver un équilibre avec la nature, mais ça va encore plus loin que ça. Parce que dans un film comme Frères des ours, en fait, le héros va vivre en tant qu'ours pendant un certain temps du film. Donc la nature et l'homme se retrouvent finalement sur un pied d'égalité, et la paix ne peut être retrouvée qu'en acceptant que l'homme fait partie de la nature. Donc il y a des chansons comme dans La Reine des Neiges aussi, hein, c'est un peu le même principe, hein, des chansons qui vont idéaliser la place de l'homme comme élément de la nature. Donc on peut se dire, est-ce que c'est une glorification de la création, comme Adam et Ève à l'époque de la création de Dieu ? Pas vraiment. Pas vraiment, parce qu'en fait, l'homme est quand même tombé. Là, on est sur quelque chose qui se passe après la chute, hein, on est dans le post-lapsaire, et finalement ça présente une idée de rédemption qui revient à l'état initial, comme l'homme faisant partie de la création, qui ne correspond pas à l'idée biblique de l'homme comme gardien ou propriétaire quelque part délégué de la création. Voilà, toujours cette idée-là de retrouver des motifs bibliques, de voir comment ils sont transformés et influencés par d'autres cultures. Voilà, donc maintenant je vais parler plutôt du côté de l'homme et de la création. Alors, parler de chute et de rédemption de l'homme, en fait dans un film, inévitablement, ça implique de mettre en œuvre un système moral de bien et du mal. Parce qu'il faut bien que l'homme chute de quelque part, il faut bien que sa rédemption se fasse dans un sens. Donc même question qu'au début de ma présentation, c'est si on ne met pas Dieu, si on ne met pas l'idéal chrétien, qu'est-ce qu'on y met ? Alors, le cinéma européen est particulièrement français. Souvent, se targue de ne pas imposer une morale, d'être libéré clairement de la morale chrétienne du péché. La première, c'est douce. Et donc de ne pas faire preuve de manichéisme. Et pourtant, tous les films français qui montrent la confrontation avec l'injustice sociale, avec l'intolérance, avec la famille, trahissent bien une conception du bien et du mal. Donc, en fait, on voit que ces films-là, un film comme Intouchable, par exemple, il parle bien d'une chute. Il parle de la chute de Philippe, donc le personnage, au sens propre et au sens figuré, parce qu'il est tombé donc, lors d'un accident de parapente, mais il est aussi tombé dans la solitude, le renfermement, et ne voilà-t-il pas qu'il va être sauvé par, je ne sais plus comment il s'appelle, par Omar Sy. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est non seulement l'inverse social de Philippe, ce personnage, mais c'est aussi un peu la figure du mal du journal de 20h, c'est le jeune de banlieue. C'est la figure du mal de notre société contemporaine, quelque part. Donc vous voyez comment, à chaque fois qu'on essaye de s'éloigner, de faire fi des figures originelles qui nous sont présentées dans la Bible, on ne fait qu'en recréer d'autres. Et même si on croit pouvoir ne pas imposer de manichéisme, il y a bien une notion du bien et du mal dans un film comme Intouchable, le mal étant représenté comme la situation originale de Philippe, donc la solitude, le fait de ne pas être fun, choses comme ça, et le bien étant représenté du coup par ce que lui apporte ce personnage. Je reviens à Star Wars, bien sûr. Alors autant en fait le personnage de Dark Vador, il a marqué la culture collective en tant que figure du mal, autant son basculement dans le mal, je ne sais pas si vous avez vu en fait les épisodes 2 et 3, est très maladroitement expliqué. Donc, regardons un peu de quelles étapes l'auteur jalonne le parcours. Donc on a bien au début un enfant innocent, qui est bon, qui n'agit que pour sauver les autres. Et en grandissant, en fait, sa passion pour une femme qui va l'amener à désobéir aux ordres des Jedi. Il va aussi retirer de l'orgueil de son pouvoir croissant. Mais en fait, l'élément déterminant de son basculement, peut-être qu'on peut regarder, vous savez, si tu tapes Anakin... Palpatine Opéra. En fait, vous allez voir d'où provient exactement le basculement.
Ouais, ça va être ça.
Non, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas le genre d'histoire que racontent les Jedi.
Dieu a-t-il vraiment dit ?
C'est une légende Sith. Dark Plagueis était un seigneur noir des Sith, tellement puissant et tellement sage qu'il pouvait utiliser la force pour influer sur les midi-chloriens et pouvait créer la vie.
Vous aurez la vie éternelle.
Sa connaissance du côté obscur était telle qu'il arrivait aussi à empêcher ceux dont l'existence lui apportait de mourir.
Vous voulez dire qu'il avait vaincu la mort ?
Le côté obscur de la force est un moyen d'acquérir de nombreuses facultés considérées par certains comme contraires à la nature.
Et que lui est-il arrivé ?
Il était devenu tellement puissant que la seule chose qui lui faisait encore peur était de perdre son pouvoir, ce qui, bien sûr, arriva un jour. Il fit l'erreur d'enseigner à son jeune apprenti son savoir et tous ses secrets.
Voilà, je vais vous montrer cette scène. Parce qu'on voit que c'est en fait un mensonge qui provoque la chute, encore une fois. Mais le mensonge, en fait, il y en a deux. Il y a ce mensonge de Palpatine, qui n'en est pas vraiment un, puisque effectivement, le côté obscur a certains pouvoirs par rapport à la vie et à la mort. Mais le mensonge qu'Anakin se fait, c'est de croire en fait que l'objet de son amour, c'est-à-dire sa femme, est en danger, alors qu'elle ne l'est pas. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, dans ce film et dans beaucoup d'autres films, la culpabilité de l'homme est presque plus lourde encore que dans la Bible. Parce que c'est Anakin qui se raconte à lui-même ce mensonge. Et on voit sa naïveté finalement, Palpatine, ne lui ment pas vraiment. Il lui donne effectivement un moyen de sauver sa femme qui est vraie. Enfin, dans l'univers du film, ils ont vraiment des pouvoirs pour sauver les autres, des pouvoirs de guérison. Donc voilà, en fait, Palpatine, c'est plus le catalyseur du changement que le provocateur. Donc dans la suite, hein, ce qu'on voit de Dark Vador, c'est que c'est quand même une bonne image du péché, parce qu'on voit qu'il est esclave, en fait, il va dire esclave de l'empereur. Il n'a jamais vraiment son pouvoir de décision. Et dans les autres films, en fait, il ne rêve que de renverser l'empereur. Et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il va finir par se retourner contre l'empereur. Bon, alors, on s'est tenté de... Il y a quand même pas mal de motifs bibliques qu'on a repérés ensemble. On s'est tenté de penser que ces grandes sagas ne s'éloignent du récit biblique que pour y revenir. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres messages quand même qui n'ont rien à voir avec la Bible, parce que Star Wars, c'est aussi le rêve finalement d'une rédemption sans intervention extérieure. C'est-à-dire que la force dans Star Wars, qui pourrait représenter la nature mystique, donc renvoyée à Dieu, en fait c'est juste un pouvoir. C'est juste un pouvoir pour faire bouger les objets, pour manier les sabres laser. C'est-à-dire que la force n'a pas de plan de salut. Et le plan de salut s'exécute de lui-même, en fait, par l'amour du fils pour son père. Donc, vous voyez, on a bien certains éléments, mais on n'en a pas d'autres. Et il y a toujours finalement ce refus d'une intervention. Il y a un terme pour ça, c'est le Deus Ex Machina. C'est un terme du scénario qui renvoie en fait à l'arrivée de l'intervention d'un dieu à la fin d'une histoire pour rétablir la situation. Et ça, c'est quelque chose en fait dont le cinéma contemporain a très peur. Et c'est même mal vu quand on dit dans un scénario qu'on a un Deus Ex Machina. En général, on va dire, mais c'est une facilité pour en fait clore l'histoire du film. La rédemption doit provenir des personnages. C'était pour un peu... vous connaissez tous Kirikou. C'est un film d'animation français, hein, comme ça je parle d'un autre genre. Voilà, je voulais en parler rapidement, parce que... Kirikou et Karaba la sorcière, c'est l'histoire d'un petit enfant, donc Kirikou qui vit dans un village, qui est attaqué par une sorcière. Et ce qui est intéressant, c'est que la sorcière attaque le village, au lieu de la combattre, Kirikou va lui poser une question. Il va lui dire « Pourquoi es-tu méchante ?» Et l'histoire du film, c'est de comprendre quelle est l'origine du mal. C'est-à-dire que Kirikou va faire comprendre à la sorcière qu'elle a une épine qui est plantée dans son dos, et c'est le fait d'enlever cette épine qui va permettre la rédemption du personnage, c'est-à-dire que Karaba va se tourner vers le bien. Donc là, le schéma biblique est presque imperceptible, mais il a l'avantage du coup de... Enfin, au lieu de Star Wars, finalement, qui essaye d'embrasser toute une histoire de chute, de rédemption sur plein de films, là, on est sur un seul motif, un seul détail, qui est fait que de comprendre et d'accepter qu'on est soi-même pécheur, c'est-à-dire que Karaba ouvre les yeux et se rend compte qu'elle fait le mal, alors que pendant tout le film, elle ne se rendait pas compte du mal qu'elle faisait, c'est ça qui va provoquer le changement. Bon, je vais terminer rapidement sur... Je vais quand même parler de la notion de sacrifice. Ce qu'est le point commun. Alors, allez-y. Voilà, on a Guido dans La Vie est belle. On a Neo dans Matrix. Grand Torino. Le soldat Ryan. Terminator 2. Et Armageddon. Voilà, on les a tous. Quel est le point commun entre tous ces personnages? Ces personnages vont se sacrifier à la fin du film pour rétablir l'équilibre. Alors, selon ces personnages, en fait, l'ampleur du sacrifice et la portée du sacrifice va être très différente. Entre Neo, qui effectivement va sacrifier pour toute l'humanité, Guido dans La Vie est belle, qui sacrifie juste pour son enfant, le général, je ne sais pas comment il s'appelle, Tom Hanks, en fait, qui va sacrifier pour un autre soldat. Et le meilleur exemple, hein, c'est Grand Torino, le personnage sacrifie pour son ennemi, enfin pour ce qui est au début son ennemi, c'est-à-dire le petit enfant asiatique, qu'il rejette au début. Donc tous les exemples qui renvoient clairement au Christ, au regard de la place qu'il donne dans la narration et de la valorisation de l'abnégation du héros. Mais il ne faut pas oublier qu'ils en écartent quand même sur quelque chose de très important, c'est que le sacrifice de ces personnages ne peuvent pas porter le péché tout entier de l'humanité. C'est-à-dire que du coup, le sacrifice, en fait, est de moins en moins le symbole du prix à payer pour le péché, ce qui permet le rachat, que parfois, donc là, c'est là que je vais parler de l'idée de Lawrence Day, c'est parfois, en fait, ça devient le moyen d'obtenir la victoire. Et là, en fait, ça n'a plus rien à voir avec la Bible. On est sur une culture plutôt inspirée de la culture kamikaze, où, en fait, face à un ennemi plus fort, alors, effectivement, on peut se dire, c'est un peu ce qu'il y a dans la Bible, hein. On peut se dire, bah, Jésus se retrouve en situation de faiblesse, le mal semble triompher pendant 3 jours, et magie, il ressuscite. Alors, en fait, c'est pas du tout ce que raconte la Bible. Dieu n'est jamais, quelque part, mis à défaut par le mal. C'est Jésus accompli son sacrifice volontairement. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais attirer votre attention en disant, voilà, dans les films américains, ok, il y a un personnage qui se sacrifie, mais pourquoi? Et surtout, quel est le résultat de ce sacrifice? Dans Independence Day, le vaisseau extraterrestre est vaincu parce qu'il y a un des pilotes qui se précipite sur le vaisseau. Alors c'est quand même impressionnant de se dire que c'est un film américain finalement, qui glorifie l'armée américaine, qui valorise en fait quelque chose qu'eux-mêmes ont subi à Pearl Harbor. Là, ils ont toujours conscience de ce qu'ils font. Et on voit ça aussi dans Le Dernier Samouraï, par exemple. Tom Cruise, alors c'est très beau, hein, c'est une figure de rachat, il se sacrifie. Mais qu'est-ce qu'on voit en fait dans Independence Day et dans Le Dernier Samouraï? C'est aussi à chaque fois un personnage qui a besoin d'une expiation. C'est-à-dire que le pilote qui se précipite sur le vaisseau extraterrestre est présenté comme un alcoolique séparé de sa famille, de même que Tom Cruise dans Le Dernier Samouraï est un personnage qui porte la culpabilité du massacre des Indiens qu'il a causé. Donc voilà, ne confondons pas sacrifice christique et toujours ce que je disais au début, hein, notion de culpabilité et de rachat passant nécessairement par l'expiation et par le jugement. Je n'aurai peut-être pas le temps malheureusement de parler d'Harry Potter. Je voulais en parler rapidement parce que c'est un exemple de. Alors il y a énormément d'histoires d'Harry Potter de sacrifice, de rédemption, mais presque à outrance. Ça en devient presque incompréhensible. Alors j'ai essayé de réécrire en fait toutes les étapes du récit et en fait je suis même pas sûr d'avoir compris exactement comment la rédemption s'opère. Alors pour faire simple, en fait au tout début, donc Harry Potter en tant qu'enfant est protégé par le sacrifice de sa mère, est protégé du sorcier. Sauf qu'en fait à ce moment-là, il y a un lien, et ça c'est très intéressant, il y a un lien qui s'établit en fait entre lui et Voldemort. Donc, Harry et Voldemort sont liés à cause du sacrifice qui a été opéré. L'un ne peut pas mourir sans que l'autre ne meure aussi. Et le seul moyen, en fait, de vaincre Voldemort, ça va être que Harry arrive à tuer la part de Voldemort qui est restée en lui. Et du coup, est-ce que c'est un sacrifice christique? Non, mon capitaine. On est, en fait, sur quelque chose qui relève de la régénération du croyant. C'est-à-dire qu'il n'y a que en acceptant de mourir symboliquement, de même que le croyant est enseveli avec le Christ, qu'il va pouvoir, en fait, ressusciter. Et donc, ce n'est pas la rédemption de l'humanité, c'est simplement le processus d'une conversion. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très compliqué. Il y a aussi l'idée que le sang a une valeur de protection. Et pour finir, je voulais parler d'un auteur dont l'œuvre est traversée par les notions de péché et de rédemption. Vous aurez reconnu Martin Scorsese, avec Taxi Driver. Alors, c'est un cinéaste qui est passionnant et qui, contrairement à des auteurs qui n'affichent pas de lien avec le christianisme, déclare hein, publiquement que c'est un sujet qui l'intéresse, même si, comme Giono, il s'écarte, en fait, en tout cas dans les médias, de la notion de foi. En vrai, Scorsese, c'est quelqu'un qui utilise une imagerie qui va être très chrétienne. On va toujours voir des croix, on va voir le rôle du sang. À nouveau, on va avoir des auréoles, hein, donc là, on n'est plus dans l'imagerie chrétienne, on est dans l'imagerie de la tradition biblique. Mais tout ça, pourquoi? Pour défendre une vision très pessimiste et pour montrer un monde marqué par l'absence de grâce. Alors, je fais un rapide tour de piste. Hein. Il y a Mean Streets. Dans Mean Streets, c'est un gangster qui essaye de sauver un de ses amis en suivant les préceptes de Saint François d'Assise. C'est le synopsis du film. Taxi Driver, donc c'est un ancien combattant de la guerre du Vietnam qui, après avoir tenté d'assassiner un représentant du gouvernement, va tenter de sauver une jeune prostituée qu'il a rencontrée. Avec une fin qui est quand même plutôt positive parce que même s'il reçoit plusieurs balles, donc à la fin il est complètement ensanglanté, il survit et il arrive à aider donc cette jeune prostituée hors du monde déchu dans lequel elle est tombée. Par contre, plus négatif, c'est le destin de Raging Bull, donc un boxeur en fait qui avait tout pour réussir, mais qui, dépassé par le succès, ruine sa vie personnelle. Et Scorsese s'attache en fait à montrer que quelles que soient les tentatives pour rester sur le droit chemin, c'est toujours les addictions, l'esclavage en fait du héros, qui va l'empêcher de revenir à sa situation initiale où il avait quelque part tout pour réussir. Hein. C'était vraiment un champion de boxe, qui avait une femme, la célébrité, toutes les conditions, n'est-ce pas, du bonheur. Et ce motif en fait du péché qu'un héros souhaite consciemment fuir, mais dont il ne peut pas sortir, c'est le motif, je dirais, de 90% de tous les films de gangsters. Quand on regarde Le Parrain, quand on regarde Casino, tous ces films-là, en fait, montrent la même chose. C'est un héros qui veut sortir du mal, mais qui est fatalement prisonnier de ce mal. Donc, il n'y a pas de rédemption. Alors, je précise quand même que Scorsese, en fait, il propose une autre lecture de son film, puisque dans un entretien qui date de 81, il déclare « Alors, ce que je venais de traverser, Jake, donc le boxeur, l'avait connu avant moi, nous avions vécu l'héritage catholique, nous avions vécu le sentiment de culpabilité, et nous avions vécu l'espoir d'une rédemption. Alors, peut-être qu'il est prétentieux de parler de rédemption. Pour moi, il s'agit avant tout d'apprendre à s'accepter soi-même. » Voilà, on a à la fois la confession de l'espérance d'une grâce, la confession, bah oui, qui a besoin, l'homme a besoin de cette grâce, mais finalement l'impossibilité de se donner à un idéal supérieur. On reste au niveau humain, on reste sur le destin personnel. Et si dans Coup de Doudne, on a enfin un personnage non violent, un personnage a priori proche de la religion, c'est pour faire en fait le constat de l'échec, puisque Coup de Doudne, enfin le Dalai Lama ne peut empêcher son pays d'être envahi par la Chine. Donc Scorsese pose la question, oui, mais où mène la non-violence en fait? La non-violence ne peut pas mener à la rédemption. Si, elle peut mener à la rédemption, mais elle ne peut pas mener à retrouver l'état initial. Toujours cette distinction à faire. Et finalement, on a dans Silence, en fait, alors je n'ai pas vu cette image-là, mais l'image de ce qu'est Scorsese et peut-être beaucoup de réalisateurs, parce qu'à la fin de Silence, en fait, le moine renonce à sa foi, mais il est enterré en serrant dans sa main une petite croix en bois. Et voilà, moi j'y vois vraiment l'image de l'homme qui a échoué dans son combat spirituel, mais qui garde au fond de lui cette... c'est même pas une espérance finalement, parce que son corps est incinéré, mais plutôt cette conscience qu'il avait en main. Il avait en main le moyen du rachat, mais il ne l'a pas pris. Voilà, c'est simplement une petite incursion dans le sous-genre cinématographique du film de robot, où là on retrouve de manière très détaillée le triptyque création, chute, rédemption. Sauf que cette fois, la créature c'est pas l'homme, la créature c'est le robot. Et ce qui est étonnant, c'est que pour l'homme, qu'est-ce que fait la créature par rapport à son créateur? Il se révolte contre lui et il tente de le détruire. Vous voyez, comme l'homme est toujours finalement plus exigeant envers lui-même que la Bible l'est. On a dit tout à l'heure que le joug de Jésus est plus doux. Moi, j'en suis convaincu. Quand je vois la manière en fait dont l'homme, dans les œuvres, met en scène le rapport entre un créateur et une créature, ça finit toujours par la violence. Alors, sauf dans Ali, où là, on a bien finalement la nécessité. Donc, Ali, c'est un petit robot qui veut retrouver sa mère. Donc, c'est l'image de la créatrice. Et c'est un des seuls films où c'est pas fait de manière violente. Voilà, ça, c'était Hal, c'est dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Là, on a bien en fait cette machine qui veut tuer son créateur. J'en arrive à la conclusion. En citant, parce que je ne pouvais pas ne pas le faire, dans la mesure où ce sont les films les plus regardés de nos jours et qui ont plus influencé la culture, c'est les films de super-héros. Que font les super-héros? Les super-héros, ils luttent pour établir l'ordre initial qui a été mis en danger par un super-méchant. Et de manière très intéressante, il y a deux films, Civil War et Batman vs Superman, où les super-héros découvrent que personne n'est né à la hauteur pour effectuer certains choix. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas décider de la vie et de la mort des autres êtres humains. Et je citerai Yannick Imbert, qui dit que dans le monde de Marvel, est dans l'attente, plus que d'un rétablissement, ou une rédemption, mais de quelqu'un qui soit digne d'administrer la vie et la mort. Là, on voit dans Infinity War, on a ce personnage de Thanos, donc il est super méchant, dont le plan est justement de décider de la mort de la moitié de l'humanité pour que l'autre moitié continue à survivre. Donc c'est intéressant, c'est un plan de rédemption, quelque part. Il considère en fait que le monde ne peut pas survivre dans les conditions actuelles, et que supprimer une personne sur deux permettra au monde de retrouver l'équilibre. Et donc c'est le seul finalement qui a un plan de rédemption. Les super-héros ne peuvent que finalement être en situation de défense. Et il y a un vide parce qu'il n'y a pas de vrai sauveur, il n'y a pas de vrai messie. Voilà, pour finir, en fait, juste pour dire que tous les mythes les plus rassembleurs qu'on a vus sont soit très influencés par la culture chrétienne qui a imprégné l'Occident, soit dans une société qui est maintenant déchristianisée, finalement, elle repose les mêmes questions qu'autrefois des questions auxquelles seule la Bible a des réponses. Et l'histoire qui compte vraiment, c'est pas celle de Frodon Sacquet. Le destin le plus fabuleux, c'est pas celui d'Amélie Poulain. L'histoire qui compte vraiment, c'est la vôtre. Donc vous en êtes le protagoniste. La vôtre est celle de nos contemporains, bien sûr. Il faut voir qui vous voulez, en tant qu'auteur, vous-même, ou le Christ. Un petit verset pour finir. Philippiens 1,6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est une promesse de scénariste, une promesse d'un auteur qui va conduire son personnage jusqu'au bout, jusqu'à ce pourquoi il était fait. Ouais, merci beaucoup.
Merci Jean-Baptiste. Nous allons prendre une pause de 5 minutes de pause, et après notre prochaine intervention.
On a des livres en vente, au fond, si ça vous intéresse, des GBU, allez-y, parce qu'après on va les ranger. Donc, profitez-en.